France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « Guillaume Budé, lecteur de Père grec », à l'occasion de la parution récente aux éditions des Belles Lettres d'un ouvrage sous le titre « L'Antiquité selon Guillaume Budé à l'école d'un humaniste érudit ». En effet, nous parlerons de l'œuvre de ce grand helléniste français de la Renaissance, du cadre historique et culturel dans lequel celui-ci était actif, et surtout de l'intérêt de Budé pour les textes chrétiens, bibliques et patristiques. Les deux auteurs de cet ouvrage, Romain Menini, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, et Luigi Alberto Sanchi, directeur de recherche au CNRS, sont avec nous pour cette présentation. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Commençons, si vous voulez bien, par un mot sur ce livre qui vient de paraître.
Ce livre porte sur la grande figure de Guillaume Budé, et plus exactement sur son œuvre. Ça veut dire que ça n'est pas tout à fait une biographie, c'est un livre sur l'œuvre relativement méconnue de ce qui est certainement le plus grand humaniste français de la première génération en France. C'est un homme qu'on a un peu oublié, sinon à cause de la collection des universités de France, qu'on appelle traditionnellement les Budé. Donc ça, on l'a retenu. On sait parfois qu'il est à l'origine de la création du Collège de France, mais ce qu'il a écrit, ce pourquoi il a travaillé, dans quel sens il a travaillé, pourquoi il a travaillé à faire renaître les études grecques, cela, on l'a parfois oublié. Eh bien, ce livre remet au centre du jeu la figure de Guillaume Budé, tente d'expliquer ce qu'il y a dans ses trois grands livres, c'est-à-dire ce que nous estimons être le cœur de son œuvre, et il tente de renverser un peu l'histoire, une histoire qui a été relativement injuste avec Budé, puisque tout le monde sait aujourd'hui qui est François Rabelais, mais tout le monde a oublié que lorsque François Rabelais, en 1521, écrit à Guillaume Budé, Rabelais n'est presque rien, c'est un tout petit moine, dans le fin fond du Poitou, et il écrit à son idole, celui qui est alors l'idole de tous les jeunes humanistes, l'idole de toute la génération de Rabelais, c'est Guillaume Budé.
Alors, on parle d'humanisme, on parle de Renaissance aussi, et il faut refixer un peu le cadre, Luigi Alberto Sanchi.
L'humanisme, c'est un grand mouvement intellectuel européen de retour au classique, à l'Antiquité, aux textes et aux langues de l'Antiquité, donc latine et grecque d'abord. On fait partir ce mouvement en Italie et à Avignon avec François Pétrarque au XIVe siècle. Et très vite, ce mouvement devient européen et on va appeler ça Renaissance, qui s'accompagne aussi d'une Renaissance des arts. Donc un retour aux sources antiques, y compris pour l'architecture, etc. Quand on parle d'humanisme, c'est plus des intellectuels, des professeurs, des linguistes qui retrouvent avec grande joie nombre d'auteurs anciens qui avaient été un peu exclus de l'université à cette époque-là. Alors, je rappelle peut-être aussi, pour parler de la France, la Renaissance française est un grand moment de l'humanisme européen. Ça commence avec les guerres d'Italie, donc vers la fin du XVe siècle, surtout le mouvement le plus important, et Budé appartient totalement à cette phase. Je rappellerai aussi que la Renaissance française, par rapport à l'humanisme italien, elle est un peu plus chrétienne, on va dire, notamment à Paris, parce que Paris, à l'époque, depuis quelques siècles, était la capitale européenne de la théologie, à côté de Louvain ou d'Oxford. Donc, philosophie et théologie faisaient partie de la respiration de la ville.
Ça, c'est la Sorbonne.
C'est la Sorbonne, notamment. Ouais. Voilà. Et les collèges parisiens, bon, qui sont encore là, dans le quartier qu'on appelle quartier latin, pour cette raison-là.
Et dans quelle langue fait-on de la théologie à cette époque-là?
Alors, c'est justement, comme le dit le mot, en langue latine. C'est la langue des intellectuels européens depuis Charlemagne. Mais l'humanisme met aussi au goût du jour l'étude universitaire de la langue grecque. Et c'est là que Budé intervient. C'est quelqu'un qui est un précurseur de l'époque d'Henri Estienne, auteur du grand Thésaurus de la langue grecque. Plus précisément, Budé est le lecteur de dizaines et de dizaines d'auteurs, notamment, fait entre autres, des auteurs chrétiens, la Bible, etc., donc, dont on va parler plus diffusément aujourd'hui.
Bon, le moment est arrivé de parler du sujet vraiment, cette fois-ci, de Budé dans ce contexte-là, de son travail, de sa production et évidemment de son apport pour l'étude des textes bibliques et patristiques. Romain.
Alors, peut-être que je peux dire deux, trois mots sur la raison pour laquelle, en 1917, des antiquisants choisissent la figure de Guillaume Budé pour être la figure tutélaire des études classiques en France et d'une collection qui va permettre de rééditer et les latins et les grecs. C'est aussi une grande figure nationale. C'est-à-dire que pour la première fois en France, on a quelqu'un qui peut regarder les Italiens droit dans les yeux et qui est un érudit de la stature des grands Italiens qu'ont été Lorenzo Valla, Politien et aussi les nouveaux humanistes du Nord comme Erasme. Et donc c'est ça aussi Budé, c'est quelqu'un qui a une voracité absolue dans l'étude. Et donc il est une figure de ce qu'il appelle lui-même l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'il veut tout lire de l'Antiquité, à la fois en latin et en grec. Et dans cette encyclopédie, il y a, comme on l'a dit, comme vous l'avez dit, les pères grecs, qui lui sont, avec la Bible évidemment, une lecture absolument nécessaire dans un temps qui se demande si le paganisme, en tout cas la rhétorique et toutes les beautés de l'Antiquité païenne, peuvent être compatibles avec une époque en mutation, une époque religieuse qui voit la naissance de la Réforme et toutes autres questions d'ordre spirituel et théologique. Et c'est ça qui est très enthousiasmant, c'est quelqu'un qui croit vraiment que l'Antiquité peut nous aider à voir l'avenir. Et ça, c'est très important à mon sens.
Avec l'étude du grec, Budé ouvre, entre dans une nouvelle dimension en fait, par rapport à tout le patrimoine latin qui était connu depuis le Moyen-Âge, etc. Alors très précisément, il y a deux points, je crois, qu'il faut retenir. D'une part, la lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en grec, ce qui permet de dépasser le texte considéré comme sacré de la Vulgate, donc de la Bible en latin.
Est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce que c'est simplement un intérêt pour la langue de la Bible grecque et des textes patristiques, ou alors c'est un intérêt plus profond qui concerne le texte lui-même ?
Alors c'est tout à fait un intérêt pour le texte comme parole du Seigneur, texte, disons, considéré comme premier par rapport à la Vulgate latine, qui est une traduction. Donc, de ce point de vue-là, Budé comprend qu'avoir l'accès au grec, et comprendre le logos, par exemple, dans l'évangile des Jean, ou d'autres éléments, est très important pour lui. Il a accès aux véritables mots avec aussi leur polysémie. Logos comme raison, comme parole, comme discours, imparfaitement traduit par sermo ou verbum, qui sont possibles, mais qui sont des approximations par rapport à la richesse, par exemple, de ce mot logos. D'autre part, il est fasciné aussi par Eusèbe, parce que grâce à Eusèbe, Budé a toute l'histoire du début du christianisme.
Eusèbe, c'est Eusèbe de Césarée.
Eusèbe de Césarée, bien évidemment.
Auteur du IVe siècle.
Et inventeur de l'histoire ecclésiastique. C'est Eusèbe qui crée, avant il y avait les histoires des nations, Eusèbe crée l'histoire de la nation des chrétiens, en quelque sorte. Et ça lui ouvre à d'autres auteurs comme Philon d'Alexandrie, philosophe juif d'Alexandrie, mais qui est contemporain du Christ, donc qui connaissait tous les mouvements des moines du désert, etc., donc les Esséniens. Donc Budé est très intéressé aussi par ces formes de christianisme du tout début, en fait, de l'existence de cette nouvelle religion. Mais surtout, je dirais, le point le plus important, c'est les pères grecs. Parce que les pères grecs, contrairement à toute une partie de la littérature chrétienne latine, sont extrêmement cultivés, sont des orateurs, sont des lettrés, et dans leurs textes, y compris poétiques, on voit toute la présence de la culture de matrice païenne, mais sous des habits chrétiens. Et donc, cette rhétorique chrétienne l'intéresse au plus haut point, et il essaye de se l'approprier, d'entrer dans cette logique. Donc, pour lui, les auteurs, notamment, quand je dis père grec, il faut distinguer, je laisserai ensuite la parole à Romain pour entrer dans le détail, mais c'est surtout le père du IVe siècle, c'est-à-dire à une époque où l'Empire avait accepté le christianisme. Donc, ce sont des pères évêques ou autres, bien installés dans le débat théologique de leur temps, mais apaisés vis-à-vis de l'État.
Nous faisons maintenant une pause pour aller dans l'église. C'est une musique qui est tout à fait en rapport avec notre texte d'aujourd'hui. C'est un extrait de la messe grecque de Saint-Denis. Vous allez nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Et c'est ici, nous sommes dans une version plus tardive, évidemment, du XVIIe siècle. Elle est chantée par le chanteur Antonios Aetopoulos. Et c'est un enregistrement qui a réalisé sur le vif le 8 juillet 2018 à l'abbaye de Sylvanès.
Thank you.
Et après cet extrait de la messe grecque de Saint-Denis, nous revenons à notre entretien avec Luigi Alberto Sanchi et Romain Menini sur l'Antiquité selon Guillaume Budet et surtout Budet, lecteur des pères grecs. On vient d'entendre un extrait de cette liturgie de Saint-Denis et ça a un rapport direct avec le sujet de l'émission. Qui de vous veut le commenter, Romain ?
Alors Saint-Denis, pour l'hellénisme en France, c'est une figure absolument capitale, puisque le grec, s'il s'est maintenu un tout petit peu durant le Moyen-Âge, c'est certainement grâce à l'abbaye de Saint-Denis. Et donc Saint-Denis, pour les Français, à la faveur d'une sorte d'amalgame qu'on fait volontiers dans l'histoire du pays, Saint-Denis c'est à la fois le contemporain de Saint-Paul, le converti de Saint-Paul à l'Aréopage, le premier évêque de Paris, martyr, et l'auteur d'un corpus absolument fascinant, qui est celui qu'on appelle aujourd'hui celui du pseudo-Denis l'Aréopagite, un corpus théologique, un corpus de théologie négative, de théologie mystique, qui a littéralement fasciné Budet. Budet en avait un manuscrit, et il l'a
lu. Pas seulement Budet, bien sûr, hein, dans l'histoire.
Pas seulement Budet. Mais la principale chose à retenir avec Budet, c'est qu'il est l'un des premiers de sa génération à le lire à ce point en grec, c'est-à-dire in extenso, que ce soit la hiérarchie céleste, les noms divins ou les autres textes du pseudo-Denis. Et on le sait parce qu'on a son manuscrit, qui est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, et il l'a annoté. Et il s'en est servi pour son grand livre de langue grecque, Les commentaires de la langue grecque, publié en 1529, où le pseudo-Denis, ou Denis le Grand, tel qu'il l'appelle, ce Denis le Grand est partout, et notamment pour cette langue si spéciale qui a beaucoup plu à Budet, cette langue faite de mots composés, de néologismes, qui vise à dire le rapport qu'on ne peut pas avoir avec la suressence, avec la ténèbre suressentielle. Et donc ce corpus, que ce soit du point de vue de la langue ou du point de vue de la mystique qu'il donne, a beaucoup plu à Budet. Et donc le pseudo-Denis vient s'ajouter à la liste des pères grecs qui constitue pour Budet l'essentiel de ses lectures dans la fin de sa vie, à partir de la fin des années 1520, et même après l'apparition des commentaires en 1529, qu'il révise en ajoutant des citations des pères, et donc il s'ajoute à la grande génération du IVe siècle, qui sont ces pères du IVe siècle, ce sont les trois Cappadociens, Basile, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, et il faut leur ajouter Chrysostome. Et avec cette boîte à outils, si j'ose dire, Budet retrouve une qualité d'éloquence grecque qui vaut celle des grands orateurs attiques, et qui les dépasse peut-être même, dans... et ce sont des auteurs chrétiens. Et voilà comment il résout le problème qui est celui de son temps. Comment être un helléniste qui lit Démosthène, qui lit Échine, qui lit Homère, qui lit Sophocle, et en même temps un vrai chrétien? Parce qu'évidemment, la Sorbonne reproche à ces nouveaux hellénistes d'être des hérétiques, c'est-à-dire de faire du grec parce qu'ils refusent un message qu'on donne depuis des années en latin, par la Vulgate ou ce texte biblique qu'on n'appelle pas encore Vulgate mais Vetus Latina et qu'on attribue à saint Jérôme.
On attribue, vous dites vous-même, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment saint Jérôme qui en est l'auteur, Luigi Alberto Sanchi?
Budet est très sensible à, bon, d'une part, à ce que disait Augustin, qui préférait la Vetus Italia, donc la Bible d'avant Jérôme, tout en ayant la plus grande considération pour Jérôme. Et d'autre part, parce que Budet, ayant les manuscrits grecs, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, constatait que la Vulgate, qui n'était pas celle d'après le Concile de Trente, hein, c'était encore la Vulgate tardo-médiévale, voilà, avec des différentes leçons, etc., et bien, était truffée d'approximations et d'erreurs qu'il se fait une joie d'épingler, tout en disant, je peux la critiquer à juste titre, parce que Jérôme n'en est pas l'auteur. Il parle toujours d'un traducteur négligent, d'un traducteur ignare, etc. Et dit, voilà, je connais bien, dit-il, le style de Jérôme, puisqu'il en a ses lettres, ses écrits, etc. Il ne peut pas être, lui, l'auteur de cette traduction, somme toute ratée. En tout cas, pour lui, le véritable texte était en grec. Et à ce propos, on continue de faire des petites découvertes, puisque le mois dernier, j'ai compris qu'il avait un manuscrit avec plusieurs textes de type solomonien de l'Ancien Testament, qui est le manuscrit grec 35 de la BNF, Je l'ai compris grâce à une variante que Budet cite. Donc, le travail que nous présentons porte sur une étude sur Guillaume Budet qui est toujours en devenir. On fait de nouvelles découvertes régulièrement, donc plus ou moins récentes. Mais là, il y en a une toute récente d'un manuscrit de l'Ancien Testament.
C'est le propre même de la recherche de ne jamais s'arrêter hein, et de donner de nouvelles informations qui sont mises sur la table de la connaissance, mais qui nous permettent ici d'avoir accès à une époque qu'on connaît très mal. Et surtout cette idée que l'Europe, à cette époque-là, est totalement coupée de ce genre d'études sur les pères grecs. Quand on dit les pères grecs, évidemment, c'est la base de la théologie, je dirais, en tout cas orthodoxe, orientale. Et donc, c'est extrêmement important pour l'histoire du christianisme et le devenir même de ce genre d'études. Alors, ce christianisme, je ne sais pas si on peut l'appeler Hélène, mais quand même avec l'intérêt de ces personnages et de Guillaume Budet, on voit bien qu'ils sont tournés vers la langue et en même temps, ce sont de bons chrétiens parce qu'ils contribuent beaucoup à la connaissance des textes sacrés. Qu'en est-il des guerres de religion ? Alors, c'est parce qu'on n'en est pas loin et parce que, évidemment, cela, je crois, a une incidence là-dedans.
Alors, ce qu'on appelle les guerres de religion relève plus de la génération suivante, c'est-à-dire qu'on estime qu'elle débute dans les années 1560, mais à l'époque même de Budet, il y a un événement dont on peut estimer qu'il est un prodrome des guerres de religion, c'est ce qu'on appelle l'affaire des placards. En 1534, donc à l'automne 1534, du 17 au 18 octobre, dans la nuit du 17 au 18 octobre 34, si je ne me trompe pas, on placarde sur la chambre même du roi, des placards, c'est-à-dire ce qu'on appelle les placards à l'époque, des affiches qui dénoncent les abus de la messe papale. Ça nous intéresse, quant à nous, parce que le dernier livre original de Guillaume Budet, qui s'appelle « Le passage de l'hellénisme au christianisme », est une réponse absolument directe à cette affaire. Le livre paraît chez Robert Estienne en 1535. Il constitue la position de Budet sur la question des troubles. Budet dit très clairement qu'il n'est pas luthérien, il dénonce ce qu'il appelle l'hérésie luthérienne, mais il n'en démord pas sur la question de l'étude du grec. Ça n'est pas parce qu'on étudie le grec qu'on est nécessairement luthérien. Et la preuve, dans ce livre, c'est le recours au père grec. Un père comme Grégoire de Nazianze, qui était certainement, c'est ce que disait Marie-Madeleine de la Garandrie, le père grec préféré de Budet, parce qu'il était aussi poète.
Eh bien, et qui n'est pas facile du tout. Là,
et qui n'est pas facile. Mais Budet disait que ce père avait montré l'exemple, puisqu'il avait déposé les trésors de l'éloquence grecque au pied du Seigneur. Et donc, il montrait la voie d'un christianisme qui pouvait être celui de Basile, celui de Grégoire, à l'époque de la Renaissance. Basile étant l'auteur de la fameuse lettre aux jeunes gens, dans laquelle il invite les jeunes chrétiens à avoir connaissance des meilleurs écrivains païens. Cela pour être un bon chrétien, pour être dans le logos à plein. Et ça, c'est ça le christianisme de Budet qui, quant à lui, malgré des tendances qu'on peut estimer être pré-réformées, puisque sa femme partira à Genève après la mort de Budet, Budet, lui, qui était très proche du pouvoir royal, est resté, si j'ose dire, dans le giron de l'Église catholique.
Donc on peut être helléniste et ne pas être du côté de la réforme, mais être du côté traditionnel de l'Église.
C'est ce que tente de dire exactement le livre qui s'appelle « Le passage de l'hellénisme au christianisme ».
Oui, alors voilà, je vais peut-être compléter, mais merci beaucoup, parce que c'est tout à fait ça. Donc, d'une part, Budet défend les humanistes. Il faut savoir que cette même année 1534 est l'année de naissance de la Compagnie de Jésus à Paris. Et donc, les pères fondateurs, dont Bobadilla, avaient cette phrase « Tous ceux qui étudiaient le grec luthéranisaient. Quod grecizabant, luthéranisabant. » Voilà, donc c'est on ne peut plus clair. Donc Budet voulait défendre ces études-là. Budet était du côté, disons, de l'orthodoxie catholique, puisqu'il étudie des auteurs grecs du premier millénaire, donc avant le schisme. Et outre les auteurs qu'on a cités, il y a Jean Damascène, il y a Maxime le Confesseur, il y a plusieurs auteurs donc, que Budet connaît directement et qui cite. D'autre part, il demande une réforme de l'Église. Voilà. Et aussi, vivant à Paris, il avait face à lui cet immense édifice intellectuel qui était la théologie latine de la fin du Moyen-Âge. Or, la complexité des auteurs grecs, chrétiens et aussi l'apport de la Bible grecque permettaient de dépasser ce grand édifice illustre, mais un peu, disons, poussiéreux, de la fin du Moyen-Âge, de cette théologie latine, pour aller au-delà. Et je crois qu'on peut dire que son geste intellectuel a été fructueux, parce que tout au long du XVIe siècle, se succèdent en France les éditions des Pères grecs. Et ce mouvement va jusqu'à Migne, à la patrologie grecque de Migne. Donc, Budé ouvre en France la voie de cette étude du christianisme s'exprimant en langue grecque.
Et on sait très bien que la patrologie de Migne est la base même de la connaissance des pères, même s'il y a des changements qui arrivent après avec les éditions critiques, etc. C'est la base donc de tout ça. Et puis, il y a eu Pitra aussi qui a fait à cette époque-là l'intérêt. Contrairement à l'époque, je dirais, récente, la France a été un pays de grandes recherches et d'apports énormes aux études chrétiennes et en même temps classiques. Bah, écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, le temps ne permet pas d'aller beaucoup plus loin, mais il faut lire ce livre, L'Antiquité selon Guillaume Budé, à l'école d'un humaniste érudit, donc par Romain Menini, Luigi Alberto Sanchi, paru aux Belles Lettres en 2025. Et puis, évidemment, l'occasion de rappeler ce que vous disiez, Romain, tout à l'heure, la fameuse homélie de Saint Basile aux jeunes, la lettre aux jeunes, comment tirer profit des lettres grecques, qui a constitué d'ailleurs un des piliers de l'éducation du monde chrétien et hellène pendant des siècles. Un grand merci à vous deux. C'était Guillaume Budé, lecteur des Pères grecs avec Romain Menini et Luigi Alberto Sanchi. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Marie Le Peintre. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.